Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet sur le réseau Centipède RTK, un outil communautaire permettant une géolocalisation de précision centimétrique, et aussi quelques bonnes nouvelles concernant le libre mis en avant dans la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Abani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavous.org. Vous pouvez y retrouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 3 mai 2022. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je suis moi-même à la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, donc je vous demande un peu d'indulgence si jamais je fais quelques petites bêtises. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, qui aujourd'hui porte sur le réseau Centipède RTK. Jean-Christophe est normalement avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Isabella, bonjour à tous, bonjour à toutes.
À toi la parole.
La géolocalisation par satellite fait partie de notre quotidien. Nos voitures, nos montres, nos téléphones sont équipés de récepteurs qui nous géolocalisent en permanence. Il est devenu banal de s'en remettre à cette technologie pour calculer et suivre un itinéraire. On parle le plus souvent de GPS, pour Global Positioning System. Cet acronyme désigne le premier système de positionnement par satellite, mis en place par les États-Unis en 1995. Il existe aujourd'hui d'autres réseaux, comme Galileo par exemple, développé par l'Union européenne. Ces services peuvent être regroupés sous le sigle GNSS pour Global Navigation Satellite Systems ou géolocalisation et navigation par un système de satellite. La technologie GNSS s'appuie sur des calculs de distance. Votre terminal mesure le délai de réception d'un signal depuis plusieurs satellites différents et il calcule votre position par triangulation. La vitesse de propagation du signal varie selon les conditions physiques de l'environnement, par exemple la présence de nuages dans l'atmosphère. Cela provoque des perturbations qui limitent la constance et la précision de la géolocalisation. Les récepteurs classiques souffrent ainsi d'une marge d'erreur qui peut varier entre 1 et quelques dizaines de mètres. Certaines applications nécessitent une précision supérieure. C'est le cas par exemple pour le guidage d'engins agricoles ou la cartographie de réseaux sensibles comme les conduites de gaz ou les lignes à haute tension. Pour améliorer la précision, on utilise des systèmes différentiels. C'est-à-dire que l'on s'appuie sur une borne de référence dont les coordonnées géographiques sont connues de manière très précise pour corriger le signal. Cette technique s'appelle le RTK pour Real Time Kinématique ou cinématique temps réel en français. Les premiers dispositifs de géolocalisation différentielle étaient très coûteux car ils nécessitent un abonnement pour se connecter à la base de référence. C'est ainsi que l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, a décidé de soutenir la création d'un réseau ouvert de bases de référence. Centipède est le nom de ce réseau collaboratif, initié par Julien Enfin et développé comme un commun qui s'améliore au fur et à mesure que le nombre de contributeurs augmente. Le logiciel RTK Base, qui fait fonctionner les bases, est développé sous licence libre AGPL, GNU, Acero General Public License, par Stéphane Penaud. Chacun peut ainsi participer et enrichir la couverture en installant son propre équipement. Une carte permet de visualiser toutes les bases disponibles. Il en existe plusieurs centaines en France métropolitaine et quelques-unes ailleurs en Europe ou en Guyane par exemple. Dans un rayon de plusieurs kilomètres autour d'une base, on obtient une géolocalisation précise au centimètre. Le réseau Centipède RTK est aujourd'hui largement utilisé par des agriculteurs, des contributeurs OpenStreetMap, des chercheurs, des passionnés. Chacun peut installer sa propre base et l'ajouter au réseau. Le matériel nécessaire coûte quelques centaines d'euros. Une abondante documentation fournit toutes les explications pour construire une base RTK ou un récepteur appelé Rover. Et c'est là que je voudrais profiter de ma chronique pour adresser un message aux initiateurs du projet. La documentation est sous licence Creative Commons by NCSA. Attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Or, une licence avec la clause NC n'est pas libre. Restreindre les utilisations commerciales, c'est se priver de certains contributeurs qui pourraient par exemple former de nouveaux utilisateurs à la construction de bases pour rejoindre et développer encore la communauté Centipède. Je renouvelle donc mon appel, libérez vos créations.
Et j'espère vraiment que ton appel sera entendu, Jean-Christophe, sera effectivement plus cohérent que même la documentation soit sous licence libre. Donc merci beaucoup pour cette chronique. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle pépite livre.
Merci, bonne émission et bon courage à toi Isa qui aujourd'hui assure à la fois l'animation et la régie. Bon courage pour la suite de l'émission et au mois prochain.
Merci, au revoir. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre. Il s'agit d'un sujet pré-enregistré il y a quelques jours. Nous allons donc écouter By Force par Punch Deck et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter By Force par Punch Deck, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. J'aime beaucoup ce morceau. C'est un artiste, Punch Deck, qui fait de l'électro. Donc, c'est des morceaux instrumentaux. Mais dans ce morceau en particulier, il y a une section rythmique très rock. Donc, j'aime beaucoup pour cette raison. Et il y a une dimension assez épique, je dirais. Normalement, ce genre de dimension, ça m'embête un peu. Mais dans ces cas-là, je ne sais pas, j'aime beaucoup. Pourquoi on se fait toujours surprendre par la musique.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je jongle entre deux souris et deux ordinateurs. C'est pour ça qu'il peut y avoir quelques pauses en trop. Donc passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur la reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre. Il s'agit d'un sujet qui a été enregistré il y a quelques jours. Nous allons donc l'écouter et on se retrouve juste après dans une heure environ. Bonjour, je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le 20 avril 2022 et nous enregistrons un sujet à l'avance. C'était la condition pour faire intervenir nos personnes invitées. Nous allons parler de reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre et nous allons le faire avec Aurore Damet, rédactrice et graphiste pour l'association Framasoft, qui est en studio avec moi. Bonjour Aurore.
Bonjour Isa.
Et avec Sylvestre, qui est animateur de l'atelier numérique des 3L, tiers-lieu de Figeac, qui intervient via l'outil de audioconférence Mumble. Bonjour Sylvestre.
Et bonjour Isa, bonjour Aurore.
Nous allons commencer notre échange. Sylvestre, tu interviens à distance. Je ne peux donc pas te voir, mais je peux t'entendre. Donc si tu souhaites intervenir à un moment, mais que tu n'as pas la parole, n'hésite pas à m'appeler Isa pour que je te donne la parole. Donc on va commencer par une question très classique. Qui êtes-vous ? Pourriez-vous nous faire une petite présentation personnelle ? Aurore, tu vas commencer peut-être ?
Ok, eh ben, bonjour, c'est Aurore. Du coup, je suis rédactrice et graphiste pour l'association Framasoft, donc membre salarié de l'association. Et alors moi, j'ai toujours aimé rendre beau les choses, que ce soit la manière de présenter, la manière d'écrire pour que ce soit bien compréhensible, même dans la musique, point de vue plutôt personnel. Et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la communication. Et il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler avec sens et c'est comme ça que je me suis tournée vers le secteur associatif.
Très bien, c'est parfait pour démarrer. Merci. Sylvestre, à toi, une courte présentation pour nos auditeurs et auditrices.
Oui, moi j'habite donc une petite commune rurale de 10 000 habitants, Figeac, dans le Lot. Pour ceux qui ne voient pas, c'est à 2 heures au nord de Toulouse à peu près. Donc on a constitué un tiers-lieu en regroupant quelques associations. Et on a obtenu une labellisation d'une antenne du ministère de l'aménagement du territoire et donc d'un dispositif qui s'appelle Fabrique de territoire et pour lequel on a un financement qui nous demande de faire de l'animation et de la culture numérique. Voilà, donc moi je m'occupe, entre d'autres choses, de cet atelier numérique, voilà, qu'on a constitué, dans lequel on colore fortement les propositions de logiciels libres. Voilà, et après, dans le cadre de la question de la reconversion, moi je viens d'un tout autre monde, puisque je suis diplômé du Centre National des Arts du Cirque, et donc j'ai quitté mon cursus formateur en 2002 avec un diplôme des métiers d'art. Donc voilà, c'est un assez grand écart de partir des arts du cirque pour arriver dans un atelier numérique, et je pense qu'on va avoir un petit peu de temps dans l'émission pour raconter ce chemin tortueux.
Voilà. Tourtant peut-être très logique, on verra bien par la suite. Donc merci pour cette première présentation. Aurore, tu disais que tu es rédactrice et graphiste pour l'association Framasoft. Pourrais-tu préciser un peu plus quelles sont tes tâches, tes missions pour l'association ?
Alors sur la partie rédaction, ça va être m'occuper de la newsletter. Donc on fait une newsletter chaque saison. Donc là, ça va être récapituler un peu tout ce qu'on a fait depuis la dernière newsletter. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'asso.
D'ailleurs, on va rappeler qu'est-ce que c'est l'association Framasoft, parce qu'elle est très connue dans le monde libriste, donc pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne la connaissent pas, donc c'est peut-être l'occasion de présenter aussi l'association.
Oui, bien sûr. Du coup, l'association Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Alors, c'est beaucoup dit comme ça. Donc, on a plusieurs actions. Donc, la première, ça va être tout ce qui va être émancipation numérique avec la mise à disposition de services en ligne qui sont libres. Pour montrer qu'on peut utiliser Internet aussi différemment et pas seulement avec des services proposés par les GAFAM notamment. Une partie de développement de logiciels libres, justement, également en alternative à d'autres logiciels qu'on connaît, notamment le logiciel PeerTube qui propose une alternative au logiciel YouTube. Ou encore Mobilisons qui propose une alternative aux événements et groupes Facebook. Donc ça, c'est vraiment la partie émancipation numérique. La partie éducation populaire, ça va être animer des conférences, être présent sur des salons, justement pour expliquer le numérique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quels sont un peu les travers qui peut y avoir avec des géants du web. Et montrer comment on peut y remédier, qu'il y a certaines alternatives qui sont possibles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier.
Super. Donc tu disais dans la newsletter, vous récapitulez un petit peu les actions faites dans le mois
voilà.
passé.
Voilà, on va récapituler vraiment tout ce qu'on a fait, où on était présent et où on le sera prochainement aussi.
Et pour la partie plutôt graphiste ?
Alors la partie graphisme, ça va être alors notamment sur le print, donc refaire des brochures qui nous présentent, que ce soit sur l'association ou sur des projets qu'on porte. Donc une dernière partie des actions de Framasoft, ça va être ce qu'on appelle l'archipélisation, donc s'investir au sein d'autres collectifs. Et notamment un des collectifs qui est animé par l'association, c'est le collectif Chaton. Et donc notamment une des dernières brochures que j'ai un peu, enfin, sur laquelle j'ai travaillé, c'était pour présenter ce collectif qui puisse
c'est
servir.
C'est quoi le collectif Chaton ou Chatons?
Alors le collectif Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc c'est un collectif qui regroupe des hébergeurs qui proposent aussi des services en ligne libres. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un collectif pour montrer que il y a un peu une force commune, on va dire. Et il n'y a pas que Framasoft qui propose des services en ligne libre. Et aussi d'avoir des hébergeurs locaux. Donc savoir que près de chez soi, on peut aussi rencontrer un hébergeur et lui poser des questions directement, par exemple.
Donc des services, mais aussi de personnes de proximité.
Exactement.
On a une centaine de structures dans le collectif, à peu
C'est
près,
ça.
Je crois. Merci pour avoir présenté le contenu de tes missions. Avant de passer à votre parcours de conversion, je laisse Sylvestre aussi peut-être présenter plus en détail en quoi consiste l'atelier numérique que tu animes au tiers-lieu de la commune de Figeac.
Oui, et bien... Donc, on est un petit groupe de bénévoles et moi-même qui suis salarié à promouvoir trois axes principalement qui nous occupent et qui sont d'actualité, qui sont la question des pollutions, en fait, de l'impact environnemental du numérique, la question des libertés et dans laquelle il y a la question de la vie privée, du respect de la vie privée, et la question de l'accès au plus grand nombre à des outils diversifiés et à leur prise en main. Voilà. Alors, moi je connais bien les Chatons et Framasoft. C'est vrai que je d'ailleurs c'est même le sujet de l'atelier mensuel là. puisqu'en fait j'anime un atelier là, bah, vendredi après-midi sur la question de l'internet alternatif. Donc, bah,
tu parles de ce vendredi, vendredi de...
Ouais, ce vendredi après-midi.
Donc, attends, moi, attention, il faut préciser que c'est le vendredi 22, je crois, parce qu'après l'émission sera transmise plus tard, donc on parlera d'un événement passé, mais voilà,
ah
c'est
oui,
pour
mince.
Montrer. Ah bah c'est pas grave, c'est comme ça. Il y aura d'autres ateliers numériques mensuels, donc il n'y a pas de souci.
Donc voilà, donc à l'atelier numérique, on propose un atelier mensuel, donc le vendredi 22 qui est déjà passé, donc c'est sur les alternatives. Donc on va présenter Framasoft, les chatons, Peertube, voilà, tout un ensemble de choses qui sont voilà, très intéressantes et qui permettent en fait de répondre à des besoins réels tout en sortant de logiques qui sont des logiques de profit en fait. Et après, on anime ce qu'on appelle le café bidouille deux fois par mois, qui est là vraiment axé sur l'auto-réparation et la prise en main et la maintenance des ordinateurs, des smartphones et aussi de tout autre objet, puisqu'on a un bénévole, Paul, qui lui répare absolument tout appareil électrique et électronique. Dans ce cadre-là, le logiciel libre est complètement pertinent, puisqu'en fait, il nous permet très souvent de remettre en route des machines un petit peu anciennes. Et c'est très profitable, puisque voilà, ça permet à la fois aux gens de ne pas racheter du matériel et d'éviter de jeter du matériel qui fonctionne encore. Voilà. Et c'est vrai qu'avec des systèmes légers, on remet en route beaucoup d'ordinateurs et moins des smartphones. On aimerait bien, mais c'est un petit peu plus difficile. Et donc voilà. Après, il y a d'autres activités. On a un temps hackerspace les vendredis matins, où là on se retrouve un petit peu en plus l'équipe de bénévoles voilà, pour construire nos outils ou essayer d'apprendre à mieux prendre en main des outils disponibles pour les diverses missions qu'on se donne.
Je trouve très sympa l'idée de consacrer un vrai temps à cette réunion entre bénévoles pour échanger, pour imaginer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Donc, tu m'en avais parlé lors d'un précédent échange et c'est plutôt une très bonne initiative.
Ouais, c'est un temps qui permet de se retrouver et puis voilà, d'être moins dans la sensibilisation et plus voilà dans nos recherches à nous. Et puis on est aussi une sorte de mini chaton, même si on n'adhère pas au collectif, parce que honnêtement, j'avais posé la question, j'avais échangé par mail un petit peu et j'avais vu que ça demandait quand même un fort investissement et moi je suis un petit peu débordé. Mais voilà, on a quand même un serveur dans le tiers-lieu, sur les bureaux et on héberge une instance Nextcloud. Et donc ça tombe bien puisque les Framadrive sont arrivés en bout de nombre de comptes, je crois, et donc les chatons peuvent prendre le relais.
Oui,
et même
crois.
La petite association de Figeac peut prendre le relais. Donc on a, pour les adhérents de l'association, on peut ouvrir voilà, un compte Nextcloud, qui est l'équivalent un petit peu des Google Drive, Google Contact, Google Agenda, etc.
Justement, c'est un service qui est très utile, qui est très demandé. Donc, espérons que de plus en plus de chatons, selon les écoles, le proposent.
Voilà. Et je termine juste parce qu'on, donc l'association pour laquelle je travaille, qui regroupe à la fois un café associatif et l'espace de bureau partagé dans lequel il y a l'atelier numérique, et aussi agréé par la CAF comme espace de vie sociale. Donc on a aussi une mission de service social, et donc on héberge des associations à but d'utilité sociale, et notamment une qui s'occupe d'accompagner les personnes qui sont en demande d'asile, les réfugiés, et par exemple je peux proposer sur le serveur des services spécifiques, notamment pour une association qui s'appelle Jamais Sans Toi, ils ont leur interface de prise de rendez-vous en ligne sur le serveur à l'atelier numérique. Donc tout c'est pour dire que tout se complète, et dès qu'on a des outils libres et qu'on maîtrise un petit peu les techniques, on peut voilà offrir des services qui sont parfois compliqués à obtenir de manière gratuite et fluide et non publicitaire à toutes sortes de prestataires, même s'ils sont pas forcément sensibiliser à la question du logiciel libre.
Bah, je pense que tu as énuméré pas mal d'exemples de la force du logiciel libre qui a une vocation sociale aussi très importante. Tu l'as montré dans les quelques exemples que tu as fait. L'échange d'aujourd'hui est consacré à la reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre ou la culture libre en général. Cela implique que vous faisiez autre chose avant. Donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette nouvelle direction? Le hasard, une opportunité, une évidence, horreur, tu peux prendre la parole.
Alors moi c'était plutôt une opportunité. C'est une période où je faisais beaucoup de veille pour trouver un nouvel emploi. Je sentais le besoin de changer après quelques années sur le même boulot.
Tu peux nous dire sur quel emploi tu avais avant?
Bien sûr, j'étais chargée de communication dans une association qui
Donc
s'appelle Concordia.
Tu étais déjà dans l'associatif et ça s'appelait?
Et ça s'appelle Concordia. Donc une asso qui faisait des projets de volontariat, en l'occurrence. Et donc du coup, sur cette phase de veille, alors je ne sais plus comment, je suis tombée sur cette offre pour ce poste que j'occupe maintenant, qui m'a vraiment particulièrement intéressée. Donc parce que c'est un poste en communication qui regroupe les deux aspects que je préfère de mon métier et qui oublie un peu les aspects que j'aime le moins. Et donc forcément, ça m'a vraiment interpellée et donc du coup, j'ai candidaté.
Qu'est-ce qui te plaît de moi si...
Alors moi, ce qui me plaît le moins dans la communication, c'est plutôt toute la partie animation de réseaux sociaux. Et ce qu'on retrouve beaucoup, notamment sur les postes de communication en association, c'est quelque chose qui est en général une grosse partie du travail.
Et à Framasso, il y avait déjà des personnes qui faisaient
exactement,
ça. Donc,
exactement.
Tu pouvais te consacrer à tes axes préférés.
Exactement. Et ça, c'est une très belle opportunité.
Alors là, du coup, c'est, ce qui était attiré, c'est déjà le contenu vraiment en termes de compétences. J'imagine que l'annonce de Framasoft parlait aussi de logiciels libres, de culture libre, je sais pas, hein, j'imagine. Est-ce que tu connaissais déjà ce monde? Est-ce que ça a eu, c'était un argument, comment dire, quelque chose qui t'a attiré aussi, ou tu étais curieuse tout simplement de découvrir?
Alors c'est un peu de tout ça. Donc je connaissais plutôt de très loin. Donc je connaissais l'association Framasoft via des services en ligne, donc avec d'anciennes collègues qui étaient particulièrement sensibles aux outils qu'elles utilisaient. On utilisait par exemple Framadate pour prendre des rendez-vous, etc. Mais à part ça, c'était compliqué parce qu'on était... On utilisait la suite Google pour les associations, qui est très pratique. Et c'est vrai que pour en sortir, c'est assez compliqué. Enfin, quand on utilise un Google Doc qui est stocké sur le Drive commun et qu'on retrouve facilement et qu'on peut tout le monde peut y contribuer, on ne va pas utiliser autre chose, en fait. Ou alors, si on le fait, il faut mobiliser toute la structure. Et là, ce n'est pas le même travail. Parce que quand il y a 35 salariés, c'est forcément pas le même investissement. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, en tout cas quand moi j'y étais, j'étais en poste à ce moment-là.
Mais quand vous utilisez le Framadate, par exemple, donc c'est un outil pour faire des sondages en ligne, est-ce que vous l'aviez utilisé parce qu'on vous l'avait suggéré, ou vous aviez une vraie conscience que c'était une alternative basée sur un logiciel libre avec une autre philosophie, avec un respect pour les données personnelles des utilisateurs?
Alors c'était vraiment en ayant conscience que c'était une alternative qui n'utilisait pas les données et qui était proposé par une structure dont on partageait les valeurs. Mais je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas conscience que c'était basé sur du logiciel libre.
D'accord. Donc, c'était l'aspect éthique, respect de la vie intime et des données personnelles des utilisateurs, les utilisatrices plutôt, qui vous avaient poussé. C'est déjà très, très bien. Voilà, donc très bien. Et donc tu disais c'était plus par rapport au logiciel libre, donc tu avais déjà eu tu as été passé déjà par ces services que tu connaissais déjà.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu t'attendais de ce poste?
Alors du coup, pendant mon recrutement, je me suis bien sûr, enfin, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur l'association. Et là aussi, je suis tombée sur une structure où je me suis dit, waouh, ça, c'est une asso qui réfléchit vraiment à long terme, qui anticipe et qui... Enfin, en lisant juste le rapport d'activité, je me suis dit, là, je pense que je vais me sentir bien. Et du coup, mes attentes, c'était vraiment plutôt le travail en équipe. rien qu'en lisant ça, je me suis dit, je pense que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une équipe soudée. Et donc, spoiler alerte, c'est le cas. Après, une autre attente, c'était d'apprendre. Parce que je savais très bien que sur les missions concrètes, c'était exactement le cœur de mon métier. Mais sur l'environnement, c'est quand même un tout nouvel environnement pour moi.
Et quand on parle d'environnement, tu parles vraiment d'outils, de logiciels à utiliser?
Alors, pas nécessairement, mais vraiment le monde du numérique, en fait. Mm-hmm. Je n'avais jamais travaillé dans le monde du numérique. Et avec du vocabulaire très spécifique, quand mes collègues qui sont développeurs ou mon collègue admin 6 parlent technique, c'est quand même clairement du nouveau langage et du coup c'est un nouvel apprentissage. Enfin, j'ai appris énormément de choses en quelques mois.
En tout cas, ça te faisait pas peur?
Ah non, du tout, et au contraire, c'était quelque chose qui me motivait beaucoup. Enfin, j'aime bien découvrir de nouvelles choses et ça, c'était vraiment un plus pour moi. Et après, je pense que le dernier point de mes attentes, c'était vraiment aimer mon travail, en fait, tout simplement.
Très bien, on verra plus tard le bilan par rapport à ton expérience à Pharmaçon, ce qui a commencé quand?
Alors, ça a commencé fin août.
D'accord, ça
fait 8 mois.
Ça commence à faire une période assez, assez importante pour pouvoir en tirer un bilan d'étape. Sylvestre, on parlait de reconversion professionnelle, d'où on vient, comment on arrive à l'emploi que tu as aujourd'hui, comment ça s'est passé? Pour toi, c'était le hasard, une opportunité, une évidence, une évolution logique?
Oula, alors c'est un long chemin. Alors si je suis trop long, tu n'hésites pas à m'arrêter, parce que comme j'expliquais, donc je viens complètement d'un autre monde et j'ai aucune formation informatique à la base. Par contre, je viens d'un métier où on nous demande d'être très polyvalent. Voilà, donc quand on est artiste de cirque, déjà dans la formation, non seulement on apprend évidemment une spécialisation, une technique de cirque, mais à côté, le cirque que je faisais moi, donc une forme de cirque contemporain, demande de mixer, d'intégrer différentes disciplines artistiques. Donc on va faire du théâtre, du jeu d'acteur, de l'improvisation, de la danse, du théâtre d'objets. Voilà, c'est très divers. Et en plus, on a la nécessité d'avoir des notions de régie. Régie lumière, régie son, accroche, travail en hauteur, construction des structures, etc. Et en fait, voilà, c'est un métier qui est très diversifié.
Sans compter ensuite, que tu m'as dit qu'il se peut que tu doives remplacer aussi quelqu'un, donc il faut savoir un petit peu aussi ce qu'ils font les autres.
Oui, oui, voilà, on est toujours, on essaye d'être toujours le plus complémentaire sur le travail en équipe. C'est aussi toujours un travail en collectif où il faut vraiment se faire confiance. Et puis, dans la pratique professionnelle, on va être amené typiquement à faire de la mécanique automobile, voilà, des choses qui sont très éloignées finalement du cœur d'activité, mais qui vont nous amener, enfin en tout cas moi, qui m'ont amené à me familiariser avec une démarche d'apprendre à faire soi-même, de lire de la documentation, des fois rébarbative, une revue technique automobile, c'est pas spécialement amusant à lire, et pourtant ça va permettre d'être autonome sur son outil de travail. Et voilà. Et venant de voilà, donc je passe quelques détails. Et puis arrive en 2007 un moment où je monte une compagnie dans le Limousin, avec pas tout seul, avec on était deux, on n'était pas nombreux, donc une toute petite compagnie. Et c'est la première fois qu'on n'a pas quelqu'un qui va pouvoir remplir la mission de communication et justement, par exemple, de graphisme. 2007, c'est pas encore comme aujourd'hui, mais déjà, c'était important d'avoir une visibilité sur Internet. Et donc, on s'équipe d'un ordinateur. Moi, jusqu'en 2007, j'avais pas eu d'ordinateur. Hein, donc, c'est-à-dire, j'étais vraiment loin de l'informatique. Et puis on se lance, voilà. Et puis je découvre un peu les outils. Comme je fais par mimétisme, j'acquiers un appareil Macintosh, puisque dans la culture, à peu près tout le monde a des Mac. Et puis voilà, les mois passent, les années passent. Je me retrouve confronté à la logique d'obsolescence logicielle chère à cette marque-là. Et puis parallèlement, je suis quand même sensibilisé un petit peu aux questions altermondialistes parce que voilà, j'avais décidé d'aller vivre en zone rurale. J'ai rencontré aussi des mouvements d'alternatives autour des pratiques agricoles, de lutte contre les OGM. Voilà, donc je m'intéresse aussi voilà, à des démarches qui prônent un autre monde, la construction d'un autre monde. Et donc assez naturellement, face à mes problèmes informatiques, du moment où je vais devoir changer d'ordinateur, en fait, je me penche très naturellement vers les systèmes libres. Donc j'installe Ubuntu sur ce vieux Mac. Et puis voilà. Et là, j'ai mis le doigt en fait dans l'auto-apprentissage. Voilà. Moi, je suis complètement autodidacte. Hein. Et pas complètement, parce que donc après je vais quand même passer par une phase plus de formation un peu plus sérieuse. Mais voilà, à travers ce première expérience d'utiliser un système libre, tu me dis si je suis trop loin.
Pour l'instant, tout va bien. On en était au point où tu as créé ta propre compagnie, donc tu es toujours dans le monde du cirque et que voilà, tu t'approches des logiciels libres parce que tu dois t'occuper en fait de la communication pour ta compagnie. Mais on n'a pas encore dit comment tu es arrivé au tiers lieu de Figeac. Donc il nous manque cette étape.
Oui, oui, il y a un petit chemin encore. J'y arrive. Donc voilà, utilisant un système basé sur Linux, assez vite, je fais quelques bêtises. Pour la petite anecdote, un jour, j'avais pris la très mauvaise habitude, et je le dis aux auditeurs éventuellement, à éviter de faire des copier-coller de lignes de commande sur les forums et tout ça, et les reproduire sans comprendre. Voilà, ça peut arriver à faire des grosses bourdes, type effacer son dossier utilisateur.
Oula. Ça
m'est arrivé. Bon, heureusement, j'avais fait une sauvegarde le jour même, donc ça n'a pas eu trop de conséquences, mais voilà, on peut se faire des bonnes sur froides. Donc, je me suis dit, il faut que j'apprenne à utiliser.
On apprend par l'erreur aussi, on a droit à l'erreur et c'est très utile les erreurs.
Oui. Et donc, j'ai découvert à l'époque, il y a beaucoup de documentation en ligne. C'est aussi une richesse du logiciel libre, c'est qu'en fait, le partage du savoir et la formation se fait très facilement en ligne. Et donc il y avait un site qui s'appelait le site du zéro, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Open Classroom, je crois, maintenant, où ils proposent des cours en ligne, voilà, et des cours en ligne et qui sont, qui m'ont permis de rentrer voilà, dans l'administration système Linux, vraiment, en parallèle de toute une foule d'activités. Hein. Je faisais vraiment ça à côté. Et puis découvrant qu'en fait il y a autant de documentation et qu'on peut faire tellement de choses par soi-même avec des outils numériques et des cours, en fait je découvre qu'en fait je peux faire mon site internet et quitter la page web qu'on avait où il fallait payer pour pas avoir de pub, enfin ça me convenait pas du tout comme système. Et donc je découvre que je peux relativement facilement créer ma page web en HTML, CSS, puis PHP, MySQL, puis JavaScript, etc. etc.
Là, tu viens de décrire des langages en fait qu'on utilise pour programmer, pour développer des sites web.
Voilà, ça c'est des méthodes, voilà, des langages qui se combinent pour construire des pages web. Et c'est pas si compliqué en fait. Si on a un peu l'habitude de lire de la documentation un peu rébarbative, on y arrive assez facilement. Et en même temps, je découvre que je peux aussi héberger mon site sur un petit serveur à la maison. Et donc, moi qui suis un peu un psychopathe du faire soi-même et de l'autonomie, j'installe un Raspberry à la maison derrière ma.
Qu'est-ce que c'est un Raspberry
Internet
pour nos auditeurs auditrices?
Alors un Raspberry, c'est un tout petit ordinateur basé sur une puce ARM, donc c'est les puces des téléphones portables en fait, c'est la même architecture que les téléphones portables. C'est très économe en énergie, c'est des machines qui vont faire entre 3 et 5 watts de consommation, enfin surtout ceux de l'époque, les Raspberry Pi 2. Et c'est un ordinateur, donc ça peut servir de serveur, entre autres. Voilà. Et pour faire du service web simple, avec pas énormément de requêtes, c'est-à-dire peu de gens qui se connectent au serveur, ce qui était malheureusement le cas du site de ma compagnie, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme machine qui héberge qui a une capacité de réponse énorme. Et donc, Et donc voilà, je rentre, mais ça, je parle de ça, c'était en 2012-2013, quoi, hein, donc c'était il y a 10 ans. Et donc je commence à pratiquer un peu l'auto-hébergement, la création de sites internet, un peu en bricolant, quoi, voilà, vraiment sur le côté bidouille. Et puis arrivé en 2017, je décide de me reconvertir, c'est-à-dire d'arrêter l'activité du spectacle parce que je suis acrobate et que arrivé à un certain âge, donc voilà, j'étais diplômé en 2002, voilà, ça fait quand même une bonne période d'activité physique très intense. Je décide d'aller vers une reconversion professionnelle. J'envisage plusieurs pistes très variées, c'est aller de l'habitat écologique à toutes sortes de choses. Et puis à ce moment-là, une rencontre fait que j'ai l'opportunité de me former et de travailler comme prestataire pour une petite agence web qui ne fait des sites que dans le domaine de la culture. Donc moi ça m'intéresse parce que c'est le monde duquel je viens.
Ça te permet de continuer à garder un pied quand même dans le monde d'où tout vient, effectivement.
Ouais, voilà, je trouve ça marrant de passer de l'autre côté de la communication. Jusque-là, la communication elle se faisait plutôt sur mes productions artistiques, et puis là je vais voilà plutôt communiquer sur d'autres initiatives. Et donc, on travaille pour du cinéma, pour des festivals, du théâtre, de la danse, voilà, un monde que je connais bien. Et au sein de cette petite agence web, je me forme donc pendant un an, alors là, de manière beaucoup plus sérieuse, principalement sur Drupal, un système de gestion de contenu donc pour créer des sites internet, et qui est libre aussi, et Laravel, qui est un framework voilà, pour pouvoir vraiment construire des applis web spécifiques quand vraiment un simple système de gestion de contenu ne suffit pas. Après ça...
Et ces formations, c'est toujours en autodidacte ou tu suis des cours ?
Non, là j'étais vraiment en lien avec des professionnels, mm-hmm. et on peut considérer que c'est une forme de stage en fait, mm-hmm. une okay. espèce de stage en entreprise pendant un an, tout en me continuant dans une démarche un peu, c'était un peu entre deux quoi, voilà. Et donc j'ai travaillé un petit peu comme prestataire pour cette agence web, après pour des raisons diverses et variées ça s'est arrêté, j'ai continué un peu tout seul. Donc j'ai créé aussi une petite agence web en auto-entrepreneur ça m'a pas tellement convenu en fait c'est un domaine qui est un peu compliqué et puis moi j'ai pas tellement la fibre commerçante donc dès qu'il s'agit de vendre de la prestation tout ça j'étais pas très bon.
Et puis tu étais seul. Non, je crois comprendre que tu aimes
seul.
Bien quand même l'aspect collectif. Ouais. C'était quelque chose de très important pour toi.
Ouais, c'est vrai. Et comme j'étais déjà bénévole en fait dans l'association, donc le café associatif L'Arrosoir et l'association qui va ensuite, ça n'existait pas à l'époque, mais qui va ensuite ouvrir l'espace de bureau partagé Les Ricochets où je travaille maintenant. Donc j'animais déjà un atelier logiciel libre avant, puisque voilà, moi c'est quand même, j'étais déjà membre de l'April, déjà à l'époque, hein, quand j'étais auto-entrepreneur. Et donc voilà, à un moment ils avaient besoin de recruter dans l'association quelqu'un qui savait administrer un site web, qui était polyvalent, qui savait aussi faire de la régie, qui savait aussi, je m'occupe aussi de la programmation musicale, donc qui avait aussi des connaissances artistiques et tout ça. Donc voilà, je correspondais assez bien à ce poste-là et j'ai candidaté et j'ai été recruté et ensuite. Et c'est en fait après qu'on a eu le financement Fabrique de Territoire qui nous a permis de développer l'atelier numérique de manière plus grosse. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment porté ce projet-là depuis le début, l'atelier numérique, avec un groupe de bénévoles que je salue et que je remercie d'ailleurs ici, puisqu'ils m'aident vraiment et ils sont vraiment acteurs dans l'activité de l'association. Et voilà, donc ils ont démarré avec l'atelier logiciel libre, puis le café bidouille qui préexistait aussi à l'atelier numérique et maintenant l'atelier numérique. Voilà.
Tu étais bénévole.
C'est une longue histoire.
C'est une longue histoire, mais moi je la trouve très logique dans l'histoire en fait. Je la trouve pas si toi et horreur pense comme moi. Donc tu étais bénévole, après tu as été recruté, maintenant tu es salarié depuis combien de temps?
Depuis janvier 2020.
D'accord, donc relativement, une embauche relativement récente, un petit peu comme Aurore. Donc on a fait un premier tour de parole pour vous connaître et pour connaître votre parcours. Je remercie d'ailleurs parce que vous parlez de choses très personnelles et donc c'est pas évident de le faire et il faut en avoir envie. Donc merci vraiment. Je profite pour remercier de vouloir partager avec vous cette partie de votre vie. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale hein, pour avoir une respiration. Donc nous allons écouter un titre qui s'appelle Bouquet de pignons par le groupe Moi Je, et on se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Soit pris d'en haut, soit pris d'en bas. Vertige des mondes et d'apparat. Traverse les ondes, ne signe pas comme ça. Répercute la révérence du monde. Mais baisse-toi, tu ne la prendras pas. L'odeur des opinions suffoque. Plus de pétales roses sur nos fronts. La vase que l'on invoque nous retient bien nos pavillons. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que les forts qui donnent raison, choisis parmi mon bouquet d'opinions. Et comme ça serre la tête, les taux se multiplient, les vis se pincent en fait. Y'a pas d'étau pour la lobotomie, mais cherche bien, ne singe pas comme ça. Faut pas lier tout au commun, l'origine ne chope pas comme ça. Mais quelle magnifique stance, se retrouve en bouquet, tout se mélange, tout danse, l'eau posée à côté. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison, choisis parmi mon bouquet d'opinions. Savoir laquelle, y a plus de choix quand y a l'opinion. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y a que l'effort qui donne raison, choisis parmi mon bouquet d'opinion. Choisis parmi mon bouquet d'opinions. Choisis parmi mon bouquet d'opinions.
Nous venons d'écouter Bouquet d'opinions par le groupe Moi Je. Ce titre est disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabella Vanni de l'April. Les autres personnes qui participent à notre échange sont Aurore Damé, rédactrice et graphiste pour l'association Framasoft, et Sylvestre, qui est animateur atelier numérique pour les 3L, tiers-lieu de la commune de Figeac. Notre échange est consacré à la reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre, la culture libre en général. Alors, nous avons présenté Aurore et Sylvestre. On a vu comment ils se sont reconvertis dans des métiers en lien avec le logiciel libre. Place maintenant à ce que vous plaît de votre travail aujourd'hui. Aurore ?
Alors, il y a beaucoup de choses.
Ben, c'est bien, ça fait plaisir d'entendre une personne qui aime son travail.
Oui. Moi, je sais que j'ai trouvé en arrivant une équipe vraiment très bienveillante et beaucoup d'entraide. Donc, rien que dans la façon de travailler les uns avec les autres, c'est très, très agréable au quotidien. Et je sais qu'en plus, on a une manière un peu particulière de travailler parce qu'on est tous en télétravail. Et je sais que c'était quelque chose qui m'avait questionnée avant de postuler, jusqu'à ce que je me dise, mais pourquoi pas proposer un espace de coworking pour, parce que moi, j'aime bien aller au travail le matin, le temps du trajet, j'aime avoir les pensées qui divaguent, ça me fait du bien. Et donc, c'est quelque chose qui a été complètement encouragé même. Et du coup, en fait, même au quotidien, j'y trouve aussi mon équilibre dans cette manière de travailler. Et donc, du coup, j'y découvre aussi une manière de faire du télétravail qui fonctionne très bien. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Exactement. Après, je découvre un monde nouveau et ça, c'est vraiment passionnant. Je pense que je n'en vois pas le bout, mais ça me plaît de ne pas en voir le bout. C'est assez, c'est assez drôle.
Quelle belle expression. J'aime bien ce concept.
Voilà. Et après, une asso aussi où on assume vraiment, on assume ce qu'on fait. On assume de pas forcément savoir et c'est très agréable en fait. Et pourquoi faire autrement en fait? Et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, sur la partie découverte des logiciels libres, ben là, j'apprends plein de choses aussi. Donc pour entrer un peu dans le détail, du coup, j'apprends à utiliser Linux au lieu de Windows. Alors que je continue à utiliser parce qu'il y a certains logiciels que je ne sais pas encore utiliser. Donc ça, j'y reviendrai peut-être après. Mais alors je n'avais aucune appréhension en fait sur utiliser de nouveaux outils. Justement, je trouvais ça intéressant. Et après, j'ai la chance de ne pas être seule. J'ai des collègues qui sont là aussi. Si j'ai un problème, une question, tel truc, ça fonctionne plus, tel truc, je ne peux plus voir cette partie sur mon écran, ça me perturbe. Ben, j'ai des collègues qui sont là pour répondre très rapidement. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et donc ça, c'est plutôt pour la partie logicielle. Et après, je sais que quelque chose qui me plaît beaucoup aussi, c'est que tous les membres de l'association, que ce soit salariés ou bénévoles, sont vraiment très investis. Et quand on est salarié d'une association, avoir des bénévoles investis, c'est un gros soulagement et c'est un gros soutien. Et c'est vraiment très agréable. Je pense que ça fait aussi grandement partie de fait que ça fonctionne très bien et qu'on s'y sent bien. Donc voilà, je les remercie ici parce que c'est vraiment très, très agréable.
Tu parlais d'apprentissage de nouveaux outils, parce qu'en fait, quand tu travaillais dans l'association précédente ou dans tes précédentes expériences, tu n'utilisais pas forcément des logiciels libres. Donc tu as dit par exemple que tu es passé à un système d'exploitation libre sous GNU Linux. Donc ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé.
et pour ce qui concerne les outils, tu faisais référence, j'imagine, notamment aux outils de graphisme.
Exactement.
Est-ce que tu es en train d'apprendre? Est-ce que tu es encore dans une phase d'apprentissage? Parce que tu dis que tu utilises encore des logiciels propriétaires pour certaines activités. Mais le but, c'est à terme, j'imagine, de les remplacer après par de logiciels libres. Si je me souviens de place, c'est, je me souviens bien, en fait, tu étais un peu. Il y avait un peu une nécessité de faire vite sur certains projets. Et c'est pour cette raison que vous avez choisi ce compromis. Sur quel autre logiciel tu vas apprendre pour le coup?
Alors en fait, il n'y a pas vraiment eu de compromis. C'est vraiment, on m'a pris là où j'en étais et comme je l'étais à ce moment-là. Et donc, c'est-à-dire que dans le monde de la communication, en fait, moi, jamais on m'avait donné un logiciel autre que la suite Adobe, par exemple. Et donc, du coup, moi, c'est les logiciels que je sais utiliser. Et en fait, donc moi, j'avais une envie dès le début d'apprendre à utiliser des logiciels libres. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, sur mes premiers mois de prise de poste, c'était impossible. J'avais trop de choses à apprendre. Et si je voulais avoir une petite satisfaction de pouvoir produire du contenu qui je trouve satisfaisant, et ben je ne pouvais pas y passer tout de suite. Donc là pour l'instant je n'y ai pas été formée, mais ça va arriver dans les prochains mois.
Ah super.
Ouais, là ça y est, je pense que je commence à me sentir assez à l'aise aussi, et surtout à avoir produit des choses qui me rendent satisfaite. Et enfin je trouve que c'est important aussi sur un travail d'avoir des étapes, mais de sentir qu'on est utile,
de se rassurer en fait.
Exactement.
Sur l'utilité qu'on a dans l'association.
Exactement. Et étant un peu perfectionniste sur les bords, j'aime quand les choses sont bien faites, et je sais que ce que j'ai produit en utilisant des logiciels propriétaires, ça n'aurait pas du tout été comme ça dans le temps que je m'étais moi-même fixé. Donc non, c'est chaque chose en son temps, mais ça va venir.
C'est un chemin.
Exactement, c'est un chemin.
Et je peux dire que la nouvelle brochure pour le collectif Château, c'est très très chouette. On en a commandé nous aussi à l'April pour l'avoir en stock.
Ah bah merci.
Donc bravo. Sylvestre, qu'est-ce qu'il te plaît le plus dans ton travail en tant qu'animateur numérique?
Là tout de suite, ça me fait plaisir d'entendre un petit peu parler de Framasoft de l'intérieur, parce que c'est une association que je connais que de l'extérieur et qui est assez fascinante en fait quand on s'intéresse au logiciel libre, parce que c'est énorme en fait les propositions qui ont été faites par Framasoft dans le monde du libre, quoi. Après moi dans mon activité ce qui me plaît principalement c'est de me sentir utile et de sentir que je travaille pour une association qui est utile. Je parlais de l'utilité sociale, donc et c'est vrai que le café bidouille, donc c'est seulement deux demi-journées par mois, mais c'est assez efficace quand même, puisqu'on remet en route beaucoup de machines avec les gens. C'est-à-dire que c'est pas de la prestation de service, quoi. Les gens sont là, ils nous voient faire, on leur explique ce qu'on fait, et ça permet vraiment de sensibiliser à la question du logiciel libre et aux gens d'être vraiment contents, voilà, de repartir avec des outils qui marchent, alors qu'ils étaient arrivés avec des outils qui marchaient soit pas du tout, soit très mal. La plupart des gens, contrairement à toi Aurore, beaucoup de gens en tout cas, dans les adhérents de l'association pour laquelle je travaille, n'ont pas des besoins professionnels en fait avec leur machine. Ils ont besoin principalement de lire leur mail, de faire un peu de bureautique et d'aller sur internet. Voilà, c'est vraiment les trois usages qui sont exclusifs chez beaucoup de gens. Et le logiciel libre, enfin, les systèmes libres sont tout à fait faciles à utiliser et très très proches des autres en fait sur ces activités-là. Donc on a des outils à proposer, on propose des solutions qui permettent à la fois de faire des économies et à la fois de moins polluer, ce qui est aussi quelque chose qui est très important pour nous, la question de la mise au rebut des appareils électroniques et la fabrication, avec tous les problèmes que ça pose en termes d'extractivisme, de consommation énergétique, voilà. Et c'est très intéressant aussi quand on fait ce travail dans la pratique, voilà, dans le lien, dans la convivialité, parce que ça se passe dans un café associatif, donc c'est aussi un lieu où on discute, où on boit des coups, où des gens passent, se disent tiens, qu'est-ce qui se passe là, et tout ça. C'est très chouette aussi de pouvoir digresser et puis d'aborder des questions. Les gens sont confrontés souvent à des problèmes d'obsolescence logicielle. Et puis oui, on va sur des questions qui sont plus d'ordre sociétal, générationnel, parce que je raconte pas générationnel, voire politique, général, je voulais dire. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on est quand même dans un monde où il y a des techniques marketing, des systèmes de capitalisme financier, voilà, qui nous poussent en fait à consommer plus, et souvent des objets qui peuvent parfois être inutiles. Voilà.
Le fait que ce soit une association qui offre aussi une programmation culturelle, un café associatif, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle attire du public finalement très varié. Et donc, ça permet aussi de sensibiliser de personnes qui, à l'informatique libre, à la culture libre, qui n'auraient pas eu d'autres moyens, en fait, de se rapprocher de ces thèmes. Donc, c'est l'avantage d'avoir un lieu à vocation sociale qui propose plein d'activités différentes.
Oui, tout à fait. C'est vrai que les gens qui viennent aux ateliers ont reçu les informations, non pas parce qu'ils s'intéressent à l'informatique et qu'ils cherchent des ressources d'information informatique, mais parce qu'ils adhèrent à un café associatif qui propose une multitude de propositions, parmi lesquelles un atelier numérique. Et donc, ça permet de toucher des gens qui sont très éloignés des préoccupations, des libertés numériques, du logiciel libre et tout ça. Et qui vont juste venir parce que ils ont un problème. Bah, ils ont un problème concret. Ou alors, il y en a quand même aussi qui viennent parce qu'ils ont entendu parler, parce que c'est quand même médiatisé un petit peu aujourd'hui, des problèmes de respect de la vie privée, de fuite de données. Voilà, il y a aussi des gens qui posent des questions par rapport à ça. Quand ils voient aussi qu'on peut échapper à la publicité, par exemple, de manière assez simple. Qui peuvent améliorer leur confort aux utilisateurs, qui peuvent aussi adapter leurs outils numériques à leurs besoins et pas tout le temps s'adapter eux à leurs outils numériques. C'est quand même un peu ce qui se passe avec pas mal de propositions actuellement. Voilà, donc ça permet effectivement de toucher un public très large et de sensibiliser des gens très variés. Voilà. Et puis après, pour finir, ce qui est aussi agréable pour moi dans ce métier, c'est d'avoir deux volets, c'est-à-dire le côté un peu sensibilisation, aide, entraide, et puis aussi le côté plus technique, puisqu'on a quand même un petit serveur à administrer, des sites web à administrer, et donc je garde quand même un pied dans l'aspect technique.
Des machines à maintenir aussi. Donc, à disposition des ordinateurs.
Voilà, donc on est surtout deux sur l'association à s'occuper de la maintenance serveur, de la sécurité et des mises à jour et tout ça. Et donc voilà, ça fait, ça permet. Alors, je précise quand même que je suis pas du tout ingénieur, et je me prétendrai pas administrateur système ou des choses comme ça. Comme j'expliquais au début, ma principale compétence est de savoir lire de la documentation, hein, et de chercher des réponses à mes problèmes dans les forums quand j'en ai un. Voilà.
En fait, il faut plus du courage, je crois. Il faut du courage et du temps, mais c'est pas impossible.
Voilà, effectivement, la question du temps est très pertinente, parce que forcément, c'est plus long. Voilà. Donc, on n'est pas très efficace en termes du temps qu'on passe, mais finalement, on a quand même des services qui fonctionnent. Depuis que c'est en route, il n'y a pas eu d'interruption de service, c'est relativement sécur, il y a des sauvegardes. On a des petits robots qui nous attaquent tout le temps et on arrive à les contrer. Donc, donc voilà, pour l'instant ça marche. J'espère que ça va durer. Enfin, ça fait quand même 10 ans que je m'occupe de serveurs et que j'ai jamais eu de gros problèmes.
J'en suis ravi pour toi. Donc, courage, temps et se faire confiance aussi, je pense. Tu me disais que dans ta période de cirque, tu as fait aussi de la balançoire russe. Vous pouvez aller voir sur Internet à quoi ça rassemble. Je pense que ça, se faire confiance, c'est aussi quelque chose que les gens n'ont pas trop l'habitude de faire pour ce qui est de l'informatique. Alors que, voilà, vous savez lire, vous pouvez utiliser un ordinateur. Voilà, il faut investir un peu de temps, un peu de bonne volonté, mais on y arrive. Et toi, tu es la preuve, vu que tu as appris tout ça tout seul. Dans ton travail, tu es toujours très en contact avec les utilisateurs, les utilisatrices, les usagers, en fait, les personnes qui ont besoin d'utiliser l'informatique. C'est pas le cas d'Aurore, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il t'arrive aussi d'aller sur des salons, de faire des conférences pour l'instant ou pas du tout ?
Alors pour l'instant, pas trop.
D'accord.
Je me suis rendue sur un seul salon et c'était plus pour justement voir comment ça se passait, etc.
Est-ce que c'est un aspect qui te plairait ?
Oui, je pense que c'est un aspect qui me plairait, en tout cas particulièrement par rapport à un public qui n'y connaît rien. Parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas vrai. Enfin, j'y connaissais un petit peu quand même sur l'informatique, etc. Mais Je trouve que c'est un chemin qui est vraiment intéressant. Donc plutôt vers un public comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Après, il faut, enfin, je pense qu'il faut encore que je fasse mes billes, que j'apprenne encore d'autres choses et que je fasse encore, enfin, pour prendre un peu plus de confiance justement sur les sujets que j'aborde.
Non, je demande parce que j'imagine que ça peut être utile aussi d'être en contact avec le public à la fin, pour construire des outils de communication ou de sensibilisation sur les services, sur les activités de l'association. C'est-à-dire qu'avoir la réaction du public, que tu peux peut-être avoir aussi parce qu'il y a les bénévoles qui te font des retours, d'expérience, ça peut passer aussi par cette raison. Mais en fait, avoir la réaction du public, ça peut te donner des idées pour aller plus loin en fait dans les outils de communication ou pédagogique.
Alors, que tu construis. Complètement. Et pour l'instant, c'est des retours que j'ai, comme tu disais, via les collègues et les membres bénévoles de l'asso. Et notamment, là, avec tout le nouveau print, j'ai demandé d'avoir des retours, comment ça se passe, etc. Quels sont de quoi il y aurait besoin en plus. Mais c'est vrai que d'y aller aussi, ça apporte quelque chose en plus. Mais bientôt.
Très bien. Donc le temps file, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous propose donc pour un tour final de parole de faire un bilan d'étape. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire où vous êtes aujourd'hui dans le chemin de votre vie, dans votre chemin professionnel, où vous vous trouvez et qu'est-ce que vous voyez devant vous. Sylvestre, tu veux peut-être commencer?
Moi je gère beaucoup d'urgences en fait, donc c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Là aujourd'hui, professionnellement, je suis très heureux de l'endroit où je suis. J'espère que ça va durer un petit peu. Après, il y a toujours un petit peu la question des financements parce que donc nous on répond à des appels à projets parce qu'évidemment un atelier numérique associatif, c'est pas rentable. Hein. Je l'ai pas dit, mais les ateliers et tout ce qui est proposé dans l'association est soit gratuit, soit à prix libre. Donc,
il faut juste être adhérent ou on peut participer sans être adhérent?
Ouais, il faut être adhérent. On demande quand même aux participants d'être adhérents. Mais l'adhésion à l'association est aussi à prix libre et elle est valable pour un an. Donc voilà, on a vraiment choisi de mettre aucune barrière financière. Et donc voilà, là par exemple, on est en train de se poser la question. D'adhérer à un dispositif qui s'appelle France Service, donc qui est vraiment orienté sur la médiation numérique, le conseil numérique, plus pour les démarches administratives. Mais on se demande si dans le cadre de ces maisons France Service, on ne pourrait pas aussi aller un petit peu plus loin que juste l'accompagnement aux démarches administratives et continuer à faire finalement de la sensibilisation autour des outils numériques.
Donc, nouvelle opportunité qui pourrait s'ouvrir. Je vous souhaite de pouvoir décrocher ce nouveau financement. Et Aurore, toi, tu te sens où dans ton chemin professionnel en lien avec le livre? Qu'est-ce que tu vois après?
Alors, je sens que j'ai déjà parcouru un gros chemin, mais que, comme je te disais tout à l'heure, j'en vois pas du tout la fin. Enfin, je sais que ça va être de l'apprentissage au quotidien et je sens que je progresse au quotidien, enfin, surtout sur la compréhension un peu de tous ces langages qui me paraissaient un peu du chinois avant.
De geek.
Exactement.
Le vocabulaire geek.
Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, le fait de comprendre certaines références, du coup, de comprendre certaines blagues, enfin, c'est quand même...
c'est important, l'humour, dans le collectif.
Ah oui, c'est hyper important ça permet de voir qu'on progresse, quoi. Après, les prochaines étapes, ça va être clairement me former sur des outils, des logiciels dont j'ai besoin pour mon travail. Et après, je vois un côté aussi plus perso où j'aimerais bien faire un peu un point sur mon utilisation du numérique. Mais je sais que moi, quand je ne travaille pas, j'aime bien couper. Et donc, je sens que c'est très long. Et c'est pas grave, enfin, ça prendra le temps que ça prendra. Mais parce que j'ai changé des pratiques qui sont assez faciles à changer.
Dans ton quotidien.
Dans mon quotidien. Mmh. Et je trouve que ça va être quelque chose d'important aussi pour pouvoir le partager après à mon entourage et puis à d'autres personnes, en fait. De montrer que c'est possible, mais je me rends compte qu'en fait ça va être un peu chronophage, quoi. Et c'est pas grave, mais je trouve que c'est quelque chose qui est important.
Très bien, donc on a vraiment très très peu de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous souhaiteriez rajouter vraiment en une minute, pas plus, parce qu'on a un petit peu, on a échangé beaucoup. Sylvestre, est-ce que tu as un message, quelque chose que tu voudrais rajouter rapidement pour notre public?
C'est le mot de la fin, en fait.
Oui, c'est le mot de la fin, plus court que prévu, en plus, parce qu'on a, on a un peu débordé.
Oui, moi, j'ai envie de faire un peu le faillot. J'ai envie de remercier l'April, remercier Framasoft, en fait, remercier tous les gens qui contribuent au logiciel libre, ce que moi, je fais assez peu. Enfin, je contribue en tant que sensibilisation et utilisateur, mais
c'est pas rien, c'est énorme. Tu es sur le terrain, c'est une action fondamentale.
En tant que programmateur, enfin, voilà, et moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, la logique du logiciel libre, elle dépasse largement la question du numérique. Et d'ailleurs, pendant le libre, en fait, là, avec...
Allô ? On a perdu Sylvestre.
Pardon, ah c'est ma souris. C'est ma souris qui a bougé.
Tu parlais de libre, en fait, je rappelle, c'est une initiative nationale qui consiste à organiser des événements dans toute la France pour faire découvrir le logiciel libre au grand public.
Oui, proposé par l'April notamment. Oui.
Et, mais par plein d'organisations sur le terrain. Oui.
Voilà, et on a projeté, donc au CAFCOS, ils ont projeté le film La bataille du libre de Philippe Borel, qui fait le lien entre la question des semences paysannes, des molécules, des médicaments et du logiciel libre, voilà, sur la question de la mise en commun, en fait. Et des outils pour mettre le savoir en commun et mettre autour de s'organiser en fait collectivement pour construire du savoir commun. Et le logiciel libre propose des outils et est très en avance finalement par rapport à d'autres domaines. Je pense par exemple à un outil qui s'appelle Git, quoi, qui est connu des développeurs, qui permet de s'organiser dans un travail collectif et d'utiliser des différentes chronologies en fait et différentes étapes de travail et de revenir en arrière, etc. Enfin, voilà, c'est un outil qui est très puissant, qui est utilisé principalement pour le développement logiciel, mais qui pourrait être utilisé pour tout, pour écrire des livres, pour organiser des projets graphiques. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très riche et voilà.
Donc pour tu voulais moi, mettre en avant cet aspect partage du savoir commun.
Je veux remercier en fait tous les gens qui contribuent à cette logique-là qui, à mon avis, porte en elle des outils pour et une logique, une mentalité collaborative, de contribution collective pour arriver à un monde meilleur, en fait. Voilà, carrément, je le dis.
Donc, tu remercies Framasoft, tu remercies aussi Aurore, laquelle a un mot de la fin très court, désolé. Est-ce que tu veux dire quelque chose qui est...
Merci, Sylvestre. Non, mais c'est vraiment la fin de ce que disait Sylvestre. Enfin, c'est vraiment des valeurs, en fait. Et c'est ça qu'on découvre en découvrant le logiciel libre aussi, c'est vraiment faire ensemble, l'objectif du commun et d'aller vers quelque chose de bien plus éthique. Et quand on comprend ça, en fait, ça fait toute la différence. Et du coup, changer ses habitudes, ça prend sens. Et je pense que c'est là où c'est moins compliqué de passer le pas, c'est de comprendre pourquoi on le fait.
Merci, excellente conclusion. Aurore, Sylvestre, un grand merci pour avoir participé à notre mission. Je vous souhaite une très bonne continuation.
Et merci Isa, merci Sylvestre.
Merci Aurore, merci Isa.
Vous êtes de retour en direct sur la radio Cause Commune. Nous venons d'écouter un sujet enregistré il y a quelques jours consacré à la reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre et la culture libre en général. Et nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aurons droit à quelques bonnes nouvelles concernant le livre dans le cadre de la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi. Nous allons écouter « If We Escape » par Terror Board. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. venons d'écouter If We Escape par Terror Bird, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons Attribution CC BY, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions CC BY SA, ou encore licence Art Libre. Et donc le morceau, le titre qu'on venait d'écouter, c'est sous la licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions CC BY SA. Donc ça permet, comme je vous disais, la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de la musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou vous créez du matériel à partir de cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, lue par Laure-Élise Daniel. Et le thème d'aujourd'hui est « Quelques bonnes nouvelles concernant le livre ». C'est une chronique qui a été enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après, dans environ 8 minutes, sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ne trouvez-vous pas que nous sommes actuellement bombardés de mauvaises nouvelles dans nos vies quotidiennes ? Il m'a donc semblé important de vous proposer aujourd'hui de relire les transcriptions de ces derniers mois qui pourront nous mettre un peu de baume au cœur et nous encourager. Le sujet principal de l'émission Libre à vous du 14 décembre 2021 concernait le plan d'action du gouvernement sur les logiciels libres. Les invités de Frédéric Couchet étaient deux responsables au sein de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, Sabine Guillaume et Bastien Guéry. Lors de l'émission du mardi 15 mars 2022, Alexis Kaufmann, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixités dans les filières du numérique au ministère de l'Éducation nationale, est venu présenter la journée du libre éducatif qui s'est déroulée le 1er avril 2022 à Lyon, journée qu'il a aussi présentée lors de son entretien, transcrit lui aussi, avec Delphine Sabatier dans l'émission Smart Tech de Bismart, diffusée le 1er avril. La transcription du discours d'ouverture de cette journée, prononcée par M. Audran Le Baron, directeur du numérique pour l'éducation, est aussi en ligne. Les liens menant à ces transcriptions sont disponibles sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui, sur le site libreavoue.org. Nous laisserons les auditeurs et auditrices lire en détail l'historique, depuis 1999, des jalons qui ont marqué les étapes de l'entrée de l'idée du libre dans les administrations pour arriver à nos jours. Les intervenants s'accordent pour dire que certains responsables, parlementaires et ministres, ont acquis une maturité sur le sujet, savent ce dont ils parlent et portent politiquement ce thème au Parlement et au sein du gouvernement. Le contexte est nouveau. Le pôle logiciel libre, dirigé par Bastien Guéry, et la mission Label, dirigée par Sabine Guillaume, travaillent de concert. Le catalogue GouvTech, dont est responsable Sabine Guillaume, propose aux acteurs publics, qui restent autonomes dans leurs choix, des solutions logicielles libres et des solutions dites propriétaires. Le pôle logiciel libre est responsable de l'expertise des solutions libres présentes dans ce catalogue, de même qu'il est responsable du CIL, le catalogue des logiciels libres utilisés dans l'État. Des informations et des repères sont ainsi à disposition des acteurs pour les éclairer dans leurs choix, pour les aider à intégrer des solutions libres sur leurs propres équipements. C'est peut-être encore assez compliqué dans certains endroits de choisir une stratégie libre. Dans les administrations, les préférences personnelles de certains responsables ne vont pas encore suffisamment en faveur du logiciel libre. Les habitudes des utilisateurs sont à prendre en compte et il est conseillé que les choix techniques soient validés par les équipes en place. La difficulté de recruter des agents libristes, compétents, est aussi un frein pour le déploiement du libre. Cependant, la culture du libre se met en place. C'est une autre façon de penser, d'imaginer, mais aussi d'acquérir des solutions par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Des programmes innovants sont mis en place. L'incubateur des services publics numériques, beta.gouv.fr, recrute en indépendant et en contractuel de nombreux développeurs et développeuses, soit plus de 500 personnes aujourd'hui. le programme Entrepreneur d'intérêt général permet à des personnes aux compétences pointues de relever pendant 10 mois les défis numériques que leur proposent les administrations. Les Blue Hats, avec leur chapeau bleu comme symbole, sont les personnes qui s'intéressent aux logiciels libres dans l'administration, simples citoyens ou agents publics. Le semestre du code permet à des étudiants, stagiaires pendant 6 mois, d'apporter leur contribution à des projets libres utilisés dans l'administration ou à des projets extérieurs. Des webinaires, des séminaires sont organisés, enregistrés et peuvent être rediffusés. Une plateforme réservée aux acteurs du secteur public pour échanger et avoir des retours d'expérience sur les solutions du catalogue a été mise en place. Cette liste n'est pas exhaustive. Un point particulier concerne le conseil d'expertise, instance de dialogue composée à la fois d'administration et de structures de l'écosystème du libre. L'April a été sollicité et a décidé de faire partie de ce conseil d'expertise. Faire mieux connaître, mieux utiliser les logiciels libres, publier les codes sources et attirer des talents dans l'administration, ce sont les objectifs portés conjointement par différentes missions de la direction interministérielle dans le cadre de ce plan d'action du gouvernement. Depuis longtemps, la direction du numérique éducatif de l'éducation nationale a une expertise sur l'usage des serveurs sous licence libre, sur l'ouverture de codes sources. Un pas supplémentaire vient d'être franchi avec le recrutement d'Alexis Kaufmann le 1er septembre 2021, professeur de mathématiques et à l'initiative de l'association Framasoft en 2001. Le directeur du numérique pour l'éducation lui a confié l'organisation de la première journée du libre éducatif le 1er avril à Lyon, un ensemble de conférences, de tables rondes et d'ateliers. La délégation académique numérique éducative de Lyon a aussi participé activement à l'organisation de cette journée. Lors du discours d'ouverture, M. le Baron a rappelé les quatre libertés fondamentales que l'auteur accorde à l'utilisateur. Droit d'utiliser les logiciels et ressources libres, droit d'étudier le code source des logiciels, droit d'adapter et droit de partager. Alexis Kaufmann souligne que les enseignants sont tous dans le partage. Ils partagent leurs cours à leurs élèves, c'est la transmission. Pour préparer leurs cours, ils se renseignent, regardent ce que font les autres, s'en inspirent, adaptent et modifient. 800 000 enseignants à l'éducation nationale. Une mine énorme de compétences, de talents, d'énergie avec une extraordinaire motivation. Ces cours et ces activités préparées par des enseignants, individuellement ou collectivement, sont des ressources qui doivent pouvoir resservir. Pour cela, il faut les regrouper, les cartographier et structurer cette créativité. Se posent des questions concernant le droit d'auteur. Rendre une ressource libre est un geste volontaire. Et souvent, les licences Creative Commons sont la solution légale. Alexis Kaufmann se réjouit d'une avancée concernant l'instance Big Blue Button, logiciel de visioconférence présent dans la liste des logiciels libres recommandés aux administrations publiques. Certaines de ses fonctionnalités sont soit améliorées, soit carrément à créer. Ces développements seront financés par le ministère. L'État incite à utiliser du logiciel libre, mais devient également contributeur avec du code mis ainsi à disposition de toute la communauté. Cette première journée du libre éducatif est une première réalisation concrète pour favoriser l'utilisation des logiciels et ressources éducatives libres. L'une des 40 propositions recueillies lors des États généraux numériques pour l'éducation, organisés après le premier confinement. Certes, il faut rattraper le retard, construire et proposer des alternatives à l'échelle de tous les ministères et probablement à l'échelle européenne. Convaincre les professeurs qu'utiliser des logiciels libres est intéressant, les soutenir, les accompagner, repérer et valoriser les talents qui ne manquent pas, inciter au partage des ressources, indiquer comment faire pour contribuer, en un mot, développer des communs éducatifs numériques, ne pourra que rendre le système scolaire à la fois plus efficace et plus efficient. Si, comme le rappelle Frédéric Couchet, on est encore loin d'une priorité effective au logiciel libre, réclamé par l'April, des bases encourageantes sont posées. Bastien Guéry et Alexis Kaufmann, libristes de longue date, ne sont pas les seuls dans ce cas au sein de l'administration. Leur présence permettra de faire bouger les choses dans le bon sens. C'est le début d'une volonté et c'est réconfortant. Profitons-en. Lisez ou relisez les transcriptions rappelées aujourd'hui. Et si vous permettez, les vidéos enregistrées lors de la journée du libre éducatif du 1er avril commencent à être en ligne, ainsi que celles enregistrées les 2 et 3 avril lors des journées du logiciel libre qui se sont aussi déroulées à Lyon. Ces enregistrements seront autant que possible transcrits par notre groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer, transcrire ou relire. Toutes les informations sont sur le site librealire.org.
Nous venons d'écouter Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, une chronique rédigée par Marie-Odile Morandi et lue par Laure-Élise Daigniel. Toutes les références citées lors de cette chronique sont disponibles sur le site de l'émission libreavoustoutattaché.org/142. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. La Cour des comptes a ouvert une plateforme citoyenne en ligne où faire des suggestions de contrôle ou bien soutenir des propositions déjà déposées. Vous avez jusqu'au 20 mai pour notamment soutenir la proposition d'évaluation des dépenses en logiciel et en services en ligne de l'État. C'est une proposition à l'initiative du co-président de la CNIL, Stéphane Fermiger, que nous aurons le plaisir de recevoir au cours de l'émission Libre à vous du 10 mai. L'association April fêtait ses 25 ans fin 2021. La situation sanitaire ne nous a pas permis de marquer le coup comme il se doit. Ainsi, nous avons pensé à un format plus adapté au contexte et qui reste très agréable par beau temps, le pique-nique. Il est donc proposé d'organiser des pique-niques 25 ans de l'April dans différents lieux en France en juin. Et pour faciliter l'organisation, il existe une page wiki ainsi qu'une liste de discussions à laquelle vous pouvez vous inscrire. Un sondage est actuellement ouvert pour fixer la date du pique-nique à Paris qui aura lieu toujours en juin. En sachant que le week-end des 18 et 19 juin, il y a déjà un événement organisé par l'April à Paris dans le 11e arrondissement. Il s'agit d'un April Camp, c'est-à-dire une réunion entre membres et sous soutien de l'April pour faire avancer des projets en cours, lancer de nouveaux projets, se rencontrer. Les projets pouvant être de nature technique, sur des outils de communication et autres, et tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences, de ses envies. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver. Il est aussi possible de participer à distance. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Jean-Christophe Becker, Aurore Damé, Sylvestre de l'espace Ricochet à Figeac, Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Daigniel. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Linguen, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y vous répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavous.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 10 mai 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'agence de mutualisation des universités et établissements. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 mai et d'ici là, portez-vous bien.